Donc voilà le premier point. Le deuxième point majeur, classique, c'est la question, bien sûr, la question de la mort. Nous avons peur de la mort. Eh bien, Épicure nous dit que là, c'est comme avec les dieux, quoi, c'est une erreur de perspective, un manque de jugement. Rien n'est plus absurde, d'après Épicure, que la peur de la mort. Rien n'est plus incohérent que la peur de la mort. Alors, je vous lis ce passage très célèbre d'Épicure. Vous avez tous déjà lu, je pense. Hein. Mais l'avoir déjà lu ne veut pas dire l'avoir déjà lu. Parce que lire, c'est recueillir. Donc, il faut, pour vraiment recueillir, il faut l'avoir déjà lu, mais il faut l'avoir relu et encore relu, vous voyez, et le penser. Donc, à chaque fois que moi je le relis, j'essaye de le repenser, mais je, voilà. Accoutume-toi à penser que pour nous, la mort n'est rien, puisque tout bien et tout mal résident dans la sensation, et que la mort est l'éradication de nos sensations. Dès lors, la juste prise de conscience que la mort ne nous est rien autorise à jouir du caractère mortel de la vie, non pas en lui conférant une durée infinie, mais en l'amputant du désir d'immortalité. Ouais, un passage vraiment extraordinaire. Il s'ensuit qu'il n'y a rien d'effrayant dans le fait de vivre, pour qui est authentiquement conscient qu'il n'existe rien d'effrayant non plus dans le fait de ne pas vivre. Stupide est donc celui qui dit avoir peur de la mort, non parce qu'il souffrira en mourant. Alors là, vous voyez, il y a une distinction entre la souffrance et la mort ici. Alors ça, on peut dire j'ai peur parce que j'ai peur de la souffrance, mais ça, c'est un autre problème. Mais là, on parle de la peur de la mort. Mais parce qu'il souffre à l'idée que la mort approche. Ce dont l'existence ne gêne point, c'est vraiment pour rien qu'on souffre de l'attendre. Le plus effrayant des mots, la mort ne nous est rien, disais-je. Quand nous sommes, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, c'est nous qui ne sommes plus. Allez, vous voyez, donc je ne pourrai jamais vivre ma mort. Quand la mort est là, j'y suis pas. Et tant que j'y suis, la mort n'est pas là. Voilà la grande thèse d'Épicure. Vous connaissez cette... Elle ne concerne donc ni les vivants, ni les trépassés. Ça, c'est génial, cette phrase. Et personne n'est concerné par la mort, finalement. Les vivants, parce qu'elle n'est pas là, et les trépassés, comme eux ne sont plus là, ils ne sont pas morts. Parce qu'il faudrait que quelqu'un soit mort, mais comme il n'y a plus quelqu'un. Donc, vous voyez, c'est même pas... Mort, c'est rien, c'est moins que rien, si vous voulez, même. Étant donné que pour les uns, elle n'est point et que les autres ne sont plus. Beaucoup de gens, pourtant, fuient la mort, soit en tant que plus grand des malheurs, soit en tant que point final des choses de la vie. Alors, qu'est-ce que nous dit Épicure ici? C'est que je ne mourrai pas. Que je ne peux pas mourir. Curieusement, il dit il faut vous débarrasser de l'idée d'immortalité, mais c'est quand même à partir d'un certain fond d'idée d'immortalité qu'il continue, voyez, parce que l'idée c'est, en fait, tant que je vis, je suis immortel. Vous comprenez l'expression, bon, tant que je vis, je suis immortel, mais bon. C'est ça, l'idée d'une immortalité finie qui est en jeu chez Épicure. Mais finie à partir d'un point de vue extérieur qui ne pourra jamais être le mien. En fait, quand j'ai peur de la mort, c'est que je me vois, moi vivant, en train de déplorer ma propre perte. Vous voyez, je suis au-dessus de mon cercueil et je me dis vraiment, c'était un type bien. C'est une immense perte pour le monde. Enfin, du moins pour moi, en tout cas. Vous vous rendez compte, c'est vrai. Grande angoisse, hein. Je me vois moi-même me pleurant dans cette inquiétude justement que personne ne me pleure. Au moment où je serai mort, peut-être. Il y aura peut-être plein de types qui diront, ouais, super, c'est bien fait. Il était temps. Bon débarras. Cela est une erreur de perspective, c'est une incohérence totale. Ma connaissance étant liée à ma vie corporelle, la perte de cette vie corporelle est la perte de ma connaissance, donc je ne peux pas connaître ma mort. Je ne peux pas mourir. Heidegger dira « je peux mourir », mais ce « je peux », c'est la possibilité de l'impossibilité. Parce qu'au moment où ce que je vais pouvoir, c'est le moment où je vais perdre tous mes pouvoirs. Et on retrouve quelque chose d'analogue, mais quand même, Heidegger dit au contraire, c'est une possibilité encore. Oui ? La phrase sur « je ne peux pas mourir » par rapport à Heidegger ou alors ? Voilà. Heidegger dit que la mort, c'est la possibilité de l'impossibilité. C'est-à-dire, je peux arriver à ce point où je ne peux plus. Voilà. Parce que mourir, c'est ne plus rien pouvoir. C'est la perte de tous mes pouvoirs, c'est la perte de tous les possibles. Et donc, il parle d'une possibilité de l'impossibilité. Mais lui, c'est une simple, pour Épicure, c'est une pure impossibilité. Je ne peux pas mourir. Donc, je ne peux pas faire l'expérience de ma mort, puisque la mort est perte de toute expérience. Donc, il est absolument absurde d'avoir peur de la mort. Alors, juste une remarque, ici, vous avez exactement ce que Lévinas appellerait un dogmatisme du néant. C'est-à-dire qu'on nous présente le fait de la mort comme un total anéantissement. Donc, vous voyez, c'est le néant. Mais on nous présente ça comme une consolation. C'est-à-dire, en fait, c'est chouette qu'il n'y ait rien après, parce que s'il n'y a rien après, il ne va rien m'arriver. Vous comprenez ? Parce que vous savez, il y a souvent une grande objection sur l'idée d'une vie après la mort. Bon, c'est de dire, c'est pour vous consoler de l'idée que la mort sera un anéantissement. Mais si vous lisez Épicure, vous voyez que l'anéantissement est une consolation. Il n'y a pas de vie après la mort, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de jugement, par exemple. Pas de jugement, ah super ! Je vais pouvoir me tirer, quoi. Pas de jugement, mais aussi pas d'expérience de la mort. Alors vous remarquez, si vous renversez la thèse d'Épicure, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les deux points qui sont absents dans la thèse d'Épicure? Il y a deux points qui sont complètement absents dans la thèse d'Épicure. Lesquels, d'après vous? Qu'est-ce que Épicure ne voit pas? Il y a une chose qu'il ne voit pas et une chose qu'il ne peut pas voir à cause de son présupposé que toute connaissance est une connaissance sensible. Oui, Alban? Oui, alors, dans quel sens, oui? Ah, oui. Alors, vous êtes en train de toucher à quelque chose. Oui, mais c'est ça, mais il faudrait renverser un petit peu. Oui? Exactement, donc il n'y a pas l'idée de l'immortalité. Vous vouliez dire ça aussi? Alors effectivement, s'il y a une âme, je dirais, de nature spirituelle, avec une possibilité de connaissance qui ne soit pas la connaissance sensible, à ce moment-là, je peux vivre la mort. Et dès lors, la mort apparaît, alors selon les... Vous allez avoir deux doctrines, vous allez dire, bah, donc l'âme s'échappe du corps parce que le corps était un tombeau, donc il y a une âme immortelle. Donc, et là encore, il va y avoir une manière de réduire le problème de la mort, si vous voulez. Le drame de la mort, comme chez Épicure. Mais là, par spiritualisme. Mais si vous prenez la doctrine, par exemple, de Thomas d'Aquin, il y a cette idée qu'il y a l'âme spirituelle qui va expérimenter la mort comme la plus grande déchirure. C'est pire que d'être coupé en deux, que d'avoir l'âme séparée du corps, parce que le composé humain, c'est une âme qui anime un corps. Et que tout d'un coup, cette âme soit arrachée, c'est un préjudice, c'est le préjudice le plus radical au niveau physique. Je ne dis pas au niveau moral, mais au niveau physique, c'est plus radical. Donc, on pourrait dire, ah oui, donc Épicure, tu es en train de te consoler là, en train de dire, il n'y a que de connaissances sensibles, parce que tu as trop peur de penser qu'on puisse vivre cet arrachement. voyez? Je ne dis pas que c'est une bonne manière d'argumenter, mais c'est une manière de retourner l'argument de « vous croyez en l'immortalité de l'âme, donc, ou à la spiritualité de l'âme, donc c'est une manière d'esquiver le drame de la mort ». Mais non, vous voyez bien, ici, c'est l'idée du néant qui sert à esquiver le drame de la mort. Et on pourrait même affirmer que la thèse de l'immortalité de l'âme serait l'idée que je pourrais traverser ce moment d'un déchirement total. Vous voyez? Oui, Claire?
Mais comme disait Arbenne, il nous enlève la peur de notre mort, mais pas la peur de la mort des autres.
Ah voilà, c'est exactement ça. C'est ce que disait Alban, mais c'est parce qu'elle n'a pas dit. J'attendais qu'elle le dise comme ça. Voilà. Effectivement, vous remarquerez qu'il dit « la mort n'est rien pour nous », alors qu'en fait, il aurait dû dire « la mort n'est rien pour moi ». Mais qu'en est-il dans la pensée d'Épicure de la mort d'autrui? Vous savez que Gabriel Marcel disait « le drame, ce n'est pas ma mort, c'est la mort de celui que j'aime ». Donc c'est exactement ce que sous-entendait Alban. C'est ça, en fait. Et ça, on pourrait dire à Épicure, si toi tu continues à vivre et que la personne que tu aimes est morte, cette mort-là, tu la vis. Cette mort-là, tu l'expérimentes. Qu'en est-il de cela? Voyez, c'est ça qui n'est pas pensé par Épicure, la mort d'autrui. La mort de celui que j'aime. Et c'est pour cela que, dans un second temps, ce qu'on va voir par la suite, Épicure va prôner quoi? Pardon? Oui, une forme de détachement. Il y a une amitié épicurienne, il y a le fait de faire du bien. Mais ce n'est pas parce qu'on est attaché à quelqu'un, c'est parce qu'on est détaché de ses propres biens. Vous voyez? Je vais être généreux, je vais donner ce que j'ai, parce que je suis détaché du bien, des biens matériels. En revanche, est-ce que je peux m'attacher à autrui? Est-ce que je peux me marier? Non, parce que si le sage se marie, si le sage est amoureux, donc pris, vous voyez, dans un amour qui implique une certaine passivité, alors il va souffrir. Et il faut absolument éviter cette souffrance-là. D'accord? Donc, on est dans une pensée qui est quand même une pensée, là, qui se trahit hein, dans son discours ici, parce qu'on voit bien que c'est la mort n'est rien pour nous, mais on voit que derrière nous, il y a d'abord soi. Et que c'est la mort de soi qui est pensée ici, et pas la mort d'autrui. Et qui trahit son caractère, je dirais, profondément individuel. Et remarquez hein, que quand vous faites un cours de morale au lycée, généralement, vous partez de là, et à aucun moment vous mettez en question l'idée que la morale est individuelle. Est une question individuelle. Qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr que la responsabilité est personnelle, mais dans cette responsabilité se joue aussi le bien commun, se joue ma relation à autrui, se joue une dimension sociale, ecclésiale, on pourrait dire, mais politique, en tout cas, c'est certain aussi. Vous voyez? Et il y a chez Épicure un refus du politique, se retirer dans le jardin. Le jardin, on a des relations où on se fait plaisir, mais pas trop, parce que... Alors, j'en arrive aux deux derniers points. Vous voyez donc la cohérence de cette pensée, parce qu'on part de l'idée d'autosuffisance, vous voyez, qui serait réalisée par les dieux. Donc, il est logique qu'on soit détaché aussi, hein, parce qu'il s'agit d'être autosuffisant à soi-même. Et dès lors, la mort n'est rien pour nous, mais la mort d'autrui n'est pas comme telle à considérer comme le drame majeur, parce que le paradigme, le modèle, c'est l'autosuffisance divine. Vous voyez, donc, l'idée qu'on se rende dépendant d'un autre par l'amour, qu'on se rende dépendant affectivement, c'est quelque chose de problématique. Donc on arrive au troisième point, qui est la question de la souffrance, et en fait la question du plaisir. C'est dans ce passage-là que l'on voit apparaître de manière radicale l'affirmation que le plaisir et la règle. D'abord, la première chose que va faire Épicure, dans cet ordre d'une pensée hédoniste, c'est de dire, d'accord, tu vas rechercher le plaisir, mais fais attention à ce que certains plaisirs, tu vas d'abord souffrir pour essayer de les atteindre. Donc tu vas devoir réfléchir à ce qu'il convient d'atteindre et ce qu'il ne convient pas d'atteindre. Donc fais-toi plaisir, très bien, à la limite on va garder cette règle-là, mais il y a mille choses qui se proposent à toi. Si tu te mets à convoiter des choses qui ne sont absolument pas nécessaires, si tu convoites des choses qui ne sont pas nécessaires, tu vas t'égarer pour du superflu, donc déjà tu vas devoir faire une sélection entre les plaisirs. Première sélection, entre les plaisirs qui sont à désirer et ceux qui ne sont pas à désirer, ou ceux qu'il convient d'éviter de désirer par soi-même. S'il nous arrive, tant mieux, mais on n'a pas à les chercher par nous-mêmes. Donc vous voyez, première remarque d'Épicure, il est également à considérer que certains d'entre les désirs sont naturels, d'autres vains, et que si certains des désirs naturels sont nécessaires, d'autres ne sont seulement que naturels. Parmi les désirs nécessaires, certains sont nécessaires au bonheur, d'autres à la tranquillité durable du corps, d'autres à la vie même. Or, une réflexion irréprochable à ce propos, c'est rapporter tout choix et tout rejet à la santé du corps et à la sérénité de l'âme, puisque tel est le but de la vie bienheureuse. C'est sous son influence que nous faisons toutes choses, dans la perspective d'éviter la souffrance et l'angoisse. Quand, une bonne fois, cette influence a établi sur nous son empire, toute tempête de l'âme se dissipe, le vivant n'ayant plus à courir comme après l'objet d'un manque, ni à rechercher cet autre par quoi le bien de l'âme et du corps serait comblé. Vous voyez, encore cette idée d'autosuffisance, à partir du modèle des dieux. Il ne faut pas courir après l'objet d'un manque. Il ne faut pas rechercher cet autre. Vous avez vu là, ici, par quoi je serai comblé. Toujours, c'est l'autosuffisance qui est visée. C'est alors que nous avons besoin de plaisir. Alors, quand le plaisir nous torture par sa non-présence, autrement, nous ne sommes plus sous la dépendance du plaisir. Voilà un passage qui est vraiment extraordinaire. Et qui, sur lequel on ne s'arrête pas assez. Donc, première remarque, vous avez des désirs. Dans ces désirs, certains sont naturels et certains sont non naturels. Dans les naturels, il y a ceux qui sont non nécessaires et ceux qui sont nécessaires. Et essentiellement, ce qui est nécessaire, c'est ce qui relève de la santé du corps et de la sérénité de l'âme. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ce serait un désir non naturel ? Ce serait de poursuivre, par exemple, le superflu. Je vais essayer de m'enrichir sans fin. Ça, ce n'est pas vraiment naturel. Parce que ce qui est naturel, c'est de posséder des biens qui nous conviennent et qui sont à notre mesure. La quête de quelque chose qui est complètement artificiel. Donc il y a déjà, vous voyez, cette idée de nature humaine qu'on retrouve ici. Mais à l'intérieur même des désirs naturels, certains sont non nécessaires. Par exemple, il est naturel, et ça Épicure le dira explicitement, de s'accoupler avec une femme et d'avoir des enfants. Vous voyez ? Mais c'est non nécessaire. C'est nécessaire peut-être à l'espèce humaine, mais vous voyez, ce n'est pas le point de vue qu'adopte Épicure, encore ce point de vue social, collectif, mais ce n'est pas nécessaire au sage. Et c'est pour ça qu'il dira du sage, si tu as une femme et des enfants, bien sûr, tu vas connaître le trouble davantage. Donc si tu veux vivre dans une absence de trouble, il faut que tu te concentres exclusivement sur les désirs nécessaires, la santé du corps, sans que ça devienne une obsession hygiénique, voilà, Mais surtout, c'est ça qui est premier, la sérénité de l'âme. Parce qu'à la limite, même si tu n'es pas en grande forme physique, si tu as l'âme en paix, c'est l'essentiel. Donc tout va être amené à la sérénité de l'âme. D'accord ? Fais-toi plaisir, d'accord, très bien, mais déjà, si tu poursuis des trucs artificiels qui vont s'effondrer, ça va mal se passer. Si tu cherches des choses qui sont non nécessaires, au bout d'un moment, tu vas entrer dans des poursuites peut-être qui vont te fatiguer, mais en plus, ça peut se retourner contre toi. Donc, concentre-toi vraiment sur l'essentiel et sur le nécessaire, sur tout ce qui peut te procurer un plaisir qui va être le plaisir aussi le plus stable. Et cette question de la stabilité, de la durée du plaisir va être fondamentale chez Épicure. Et c'est ça la sérénité. Hein. C'est derrière la notion de sérénité ou d'ataraxie. Vous savez, ataraxie, ça veut dire absence de trouble. Eh bien, derrière cette absence de trouble, il y a l'idée d'une stabilité. Ça, c'est un point qu'on retrouvera dans beaucoup de philosophies morales, que l'essentiel de la vie morale, vous voyez, c'est une égalité d'âme, une égalité d'humeur. Hein, l'équanimité qu'on trouvera, par exemple, chez les stoïciens. Équanimité, ça veut dire égalité d'âme. Hein. L'équanimité. Donc ce serait ça l'essentiel, voyez. Et vous trouvez beaucoup de personnes, c'est très intéressant parce que vous remarquerez que l'épicurisme, vous le trouvez dans certaines formes de développement personnel, de néo-bouddhisme, vous savez, tout ça, c'est vraiment l'idée de trouver la paix intérieure. Mais l'ataraxie, c'est l'absence de troubles, donc vous voyez, c'est curieux parce que c'est un homme qui commence, on va le voir par la suite, mais il va affirmer la règle du plaisir, mais curieusement, au final, ce qu'il va chercher, c'est l'absence de trouble. Parce que, au fond, le plaisir le plus stable, puisque la question, c'est la stabilité, le plaisir le plus stable, c'est justement l'absence de trouble. Oui ?
Pourquoi ne pas se suicider ? Parce que le néant, c'est le plus stable, ultimement.
Oui, alors, Épicure l'évoque, c'est intéressant parce que cette objection, il l'évoque juste après, je ne vous ai pas mis la citation, mais d'abord, il n'y a pas de stabilité dans le néant, puisqu'il n'y a rien. Il le dit bien, c'est pas moi. Et la question de la morale, quand même, pour Épicure, c'est moi. Vous voyez bien, hein, c'est absent, c'est pas... me supprimer, c'est pas aller mieux. Je ne vais pas mieux quand je me supprime. Cette sagesse assez élémentaire, vous la trouvez presque chez tous les auteurs antiques, et curieusement, même chez les cyniques. Vous savez que le père du cynisme n'est pas Diogène, mais son maître Antisthène. Et Antisthène était atteint d'une phthisie, une maladie pulmonaire très, très violente, et il souffrait énormément. Et un jour, c'est raconté par Diogène Laërce, hein, dans la vie d'Antisthène, un jour, il dit à Diogène, le cynique, « Ah, qui me délivrera de mon mal ?» Et à ce moment-là, Diogène sort un couteau et lui dit « Ceci, maître. » Et Antisthène répond « J'ai dit de mon mal et non pas de la vie. » Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, dans la logique euthanasique, etc., on confond les deux. On confond supprimer la douleur et supprimer la personne. Mais un philosophe antique, généralement, c'est rare qu'il fasse cette confusion. À partir du moment où il est philosophe, il a quand même compris la distinction. Et ça ira très loin. Par exemple, quand Plotin dit... je vais vous le traduire. Par exemple, quand vous dites « quelle vie de merde », c'est pas comme ça que Plotin le dit, hein, vous avez compris. Donc, quand vous dites « quelle vie de merde », c'est pas la vie qui est la merde, mais c'est pas que vous... Parce que vous devez comprendre que vous aimez la vie et que c'est ce qui détruit la vie que vous voulez rejeter. Vous voyez? Parce que si vous supprimez la vie elle-même, à ce moment-là, vous êtes en dehors de toute positivité, déjà. Donc, vous voyez, il y a quand même cette distinction. On ne peut pas dire que la vie est mauvaise ou que la vie est horrible. La vie est bonne, et c'est parce que la vie est bonne que ce qui vient la blesser nous apparaît comme horrible. Donc quand on commence à, d'une certaine façon, désespérer de la vie, ce dont on désespère, c'est de ce qui vient ruiner la vie, et non pas de la vie elle-même. Et Épicure dit des phrases de ce genre, hein. Il dit, certains disent, il est stupide de dire, alors, sitôt né, mieux vaut retourner à l'Hadès. Donc, il dit non, c'est stupide. Notez hein, que c'est avec les forces de la vie que nous jugeons en plus. Vous voyez, il y aurait en plus une sorte de, non seulement d'ingratitude, mais d'incohérence totale à dire, à partir de la force que la vie me donne, de dire la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, par exemple. Vous voyez, parce que c'est à partir de la vitalité même que je prétends prononcer une sentence contre la vie. Vous voyez, c'est des choses qu'on voit affleurer chez Épicure. Alors, comme c'est une lettre et que c'est synthétique, on ne sait pas le fond de sa pensée là-dessus. Mais en tout cas, il est très critique à l'égard de l'idée de suicide. Donc, il y a toute cette configuration-là. Et alors, il y a une chose qui est très étonnante, c'est qu'il dit « Faites attention, le plaisir peut nous faire souffrir. » Vous avez vu, c'est ça ce qu'il dit. Il dit « Le plaisir », vous avez cette phrase dans cette traduction hein, là, du grec, mais « Le plaisir nous torture ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Le plaisir nous torture » ? Ben, c'est à partir du moment où je suis trop dépendant au plaisir et que quand il est absent, je souffre. Et au moment où je te dis « fais-toi plaisir », tu commences tout de suite à souffrir. Parce que la première chose, si je dis à Victoire « fais-toi plaisir », elle est bien embêtée parce qu'elle va dire « bon d'abord qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis là, le cours, bon, d'accord, mais enfin, bon, peut-être d'autres choses à faire, mais là, j'y suis pas encore. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est peut-être pas là. Donc, et donc, en réalité, quand je vais lui dire ça, je vais générer en elle des souffrances. Bah oui, parce que d'un coup, elle va voir ce qui lui manque, peut-être, le plaisir qui lui manque. Et c'est pour ça qu'Épicure dit, attention, si vous voulez que le « fais-toi plaisir » soit immédiatement efficace, il faut le ramener à des plaisirs que vous pouvez atteindre aisément, et donc qui relève encore d'une certaine autosuffisance. Vous voyez, ce paradigme de l'autosuffisance qui revient tout le temps. Et donc on arrive au dernier point, sur la règle du plaisir, c'est le passage sur lequel on va finir. Alors, c'est là que vous avez vraiment la grande affirmation hédoniste. Voilà pourquoi nous disons que le plaisir est le principe et le but de la vie bienheureuse. C'est lui que nous avons reconnu comme bien premier et congénital, c'est de lui que nous recevons le signal de tout choix et rejet, c'est à lui que nous aboutissons comme règle en jugeant tout bien d'après son impact sur notre sensibilité. Vous voyez, il n'y a que la connaissance sensible. Donc, il n'y a du bien que sensible, le bien sensible, c'est ce qu'on appelle hédoné plaisir. D'accord ? Et tous les choix que nous faisons, c'est en vue d'atteindre un certain plaisir. Tous les rejets que nous faisons, c'est toujours en vue du plaisir. Mais remarquez tout de suite que ça va aboutir à quelque chose de critique, parce que la question qu'on va dire, mais alors, est-ce qu'il s'agit de se jeter sur le premier plaisir venu ? Et c'est là où il y a une critique de l'hédonisme qui va se faire automatiquement par Épicure, parce qu'il va dire, justement, parce qu'il est le bien premier et né avec notre nature, nous ne bondissons pas sur n'importe quel plaisir. Il existe beaucoup de plaisirs auxquels nous ne nous arrêtons pas lorsqu'ils impliquent pour nous une avalanche de difficultés. Nous considérons bien des douleurs comme préférables à des plaisirs dès lors qu'un plaisir pour nous plus grand doit suivre des souffrances longtemps endurées. Ainsi, tout plaisir par nature ou en soi a le bien pour intime parent sans pour autant devoir être cueilli. Symétriquement, toute espèce de douleur est un mal, sans que toutes les douleurs soient à fuir obligatoirement. C'est à travers la confrontation et l'analyse des avantages et désavantages qu'il convient de se décider à ce propos. Alors là, vous, voilà la phrase incroyable. C'est à travers la confrontation et l'analyse des avantages et désavantages qu'il convient de se décider à ce propos. Ça, vous avez la phrase qui va être au fondement de toute la morale utilitariste, de toute la théorie économique moderne. le fait que les gens agissent en fonction d'une analyse de leurs avantages et de leurs désavantages, etc. De toute la morale qu'on pourra appeler une morale du calcul. Et donc vous avez après, ainsi nous considérons l'autosuffisance comme un grand bien, etc. Et puis après il dira, attention, il y a ceux qui croient que nous sommes nous faisons l'apologie de la beuverie ou de l'orgie. Il dit voilà, ni les beuveries, ni les festins continuels, ni les jeunes garçons ou les femmes dont on jouit, ni la délectation des poissons, c'est assez drôle, et de tout ce que peut porter une table fastueuse ne sont à la source de la vie heureuse. C'est ce qui fait la différence avec le raisonnement sobre, lucide, recherchant minutieusement les motifs sur lesquels fonder tout choix et tout rejet, et chassant les croyances à la faveur desquelles la plus grande confusion s'empare de l'âme. Alors voilà, là on a un passage vraiment décisif. Vous cherchez le plaisir, fais-toi plaisir, ok? Donc déjà, il ne faut pas que je me mette dans des quêtes absurdes, vaines, il faut que je sélectionne, d'accord? Une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas me jeter sur le premier plaisir venu, parce que certains, même si tout plaisir est bon en lui-même et que toute douleur est mauvaise en elle-même, cependant, relativement, un plaisir peut être mauvais et une douleur peut être bonne. Pourquoi ? Parce que certains plaisirs conduisent à des maux plus grands. Donc, Épicure va vous dire, vous devez d'abord rejeter les excès, la beuverie et tout ça. D'accord ? Parce que la salle du festin n'est pas loin du vomitorium. Vous savez que c'était une salle qu'on trouvait dans tous les lieux un peu, je dirais, sophistiqués. On savait faire la fête, le vomitorium. C'est une salle typique du savoir-vivre romain. Parce que pour pouvoir continuer à manger quand vous étiez gavé, vous aviez un endroit pour vous faire vomir. Donc vous alliez vous faire vomir et vous reveniez. Voilà. Je pense que les mecs, ils avaient mangé en même temps, vous voyez, trop, ils se retrouvaient là. « Salut, comment tu vas, Roger ? Ouais, ça va bien, et toi ?» Voilà. Et je pense que ça devait dégueuler ensemble, ça devait créer des liens, quoi. Remarquez qu'on trouve ça aujourd'hui dans beaucoup d'écoles de commerce ou de médecine ou même dans certains clubs anglais. C'est-à-dire que l'idée qu'on devient ami, vous savez, c'est qu'on est devenu des épaves ensemble et qu'on a vomi ensemble. Et à partir de ça, vous voyez, se fonde une sorte de lien à la vie, à la mort. D'accord ? Le vomi étant un peu la consécration de ce type d'amitié estudiantine. Bon. Il n'en demeure pas moins que la gueule de bois dure plus longtemps, vous voyez ? Vous allez coucher avec une femme, vous chopez la syphilis ou le sida, mais ce n'est même pas ça. Vous pouvez avoir tous les embarras de sa maternité, de tout ce qui, vous voyez, qui peut s'en suivre. Le fait que son père va vouloir vous tuer... qu'elle a un frère corse, chose commune de ce genre. Et donc, ce que dit Épicure, c'est attention, évitez les excès, parce que les excès, vous avez un pic, mais après vous allez avoir une chute et une dépression. Donc pas de beuverie, pas essayer de rester, vous voyez, cette ligne de stabilité, d'un plaisir stable, et donc sans grand écart. Et puis la deuxième chose, c'est attention, calculer. Analysez. Vous devez savoir anticiper. Parce que si vous vous jetez sur un truc qui induit une douleur plus grande, non, c'est pas bien. Et même, parfois, choisissez certaines douleurs en vue d'un plaisir plus grand. Par exemple, si vous voulez pas que votre gencive se gangrène, vous avez mal à la dent, vous allez chez le dentiste. C'est douloureux, il vous arrache la dent. Oui, mais ça, c'est hédoniste. Il est hédoniste d'aller chez le dentiste, d'après Épicure, parce que vous visez un plaisir plus grand à travers cette douleur. Et notez dès lors que même une certaine vision du christianisme peut être amenée à cet hédonisme-là, c'est ce que je vous disais. Ah oui, souffre bien ici-bas parce que c'est un calcul. Tu vas souffrir ici-bas afin d'obtenir la béatitude là-bas. On reste dans une logique hédoniste ici. Et on pourrait penser à un hédonisme chrétien. Est-ce que le christianisme est un hédonisme ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser l'accès au paradis ? Beaucoup l'ont pensé comme ça. C'est juste pour vous montrer que l'hédonisme est une structure de pensée morale qui est beaucoup plus étendue que l'épicurisme, beaucoup plus étendue que ce qu'on appelle strictement parlant l'hédonisme. Vous voyez ? Ah, il y a des trucs, c'est des souffrances, mais ces souffrances-là, comme quand je vais chez le dentiste pour aller bien après, ou comme quand je me fais amputer d'un membre, oui, ah mais oui, mieux vaut rentrer en royaume des cieux avec un bras en moins plutôt que ce bras qui te fait... Donc, je vais souffrir l'amputation, je vais, et j'entre dans le plaisir du royaume des cieux. Est-ce que c'est ça le christianisme ? Oui, est-ce qu'au fond, nous serions des hédonistes ? Voilà quelque chose qui est très intéressant, mais montrer que c'est comme ça. Et curieusement, vous voyez deux choses ici qui sont très intéressantes. C'est que l'hédonisme cohérent va se renverser en une forme de puritanisme, de culte du détachement, vous voyez, et qu'en plus, il va se changer en éloge du calcul, d'un discernement qui est le fait qu'on calcule tout le temps. Donc, vous voyez, renversement de l'hédonisme en puritanisme, mais par lui-même, hein, pas de l'extérieur, parce qu'on va se dire, tu cherches le plaisir, mais fais attention, donc, parce que tu as plein de plaisirs qui te conduisent à des dépressions plus grandes, à des douleurs plus grandes, donc évite-les. Sois capable de souffrir pour parvenir à un plaisir plus grand. Vous voyez, donc il y a toute cette, après, cette transformation-là. Hein. Je ne dis pas que c'est entièrement faux, hein. Je dis, mais peut-être que ça passe à côté de ce qui est essentiel en morale. C'est pour ça que c'est assez séduisant et c'est surtout très simplificateur. Donc il y a des choses qui sont vraies ici. Et puis l'autre chose, c'est de dire, attention, tu dois calculer. Calcule les avantages, les désavantages. Et c'est pour ça que l'hédoniste s'emmerde. Parce que, imaginez, vous arrivez dans un endroit vous allez, où il y a une teuf. Vous allez à la grosse teuf, vous voyez, je dis, là, je vais essayer de me faire plaisir. Et c'est là, généralement, que vous vous ennuyez à mort. Parce que... Qu'est-ce que ça veut dire, se faire plaisir ? Bon, vous arrivez avec cette sorte d'exigence. Et même, est-ce que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un ? Non, parce que si je croise Mathieu ou Aude, je les prends dans un dispositif de calcul pour dire qu'est-ce que ça va me rapporter, comme plaisir ou pas. Vous voyez, c'est... Et donc, je suis tout le temps, d'une certaine façon, absent de ce que je suis en train de vivre, puisque je suis en train de mesurer tout le temps... Vous voyez, la perte, le profit, l'avantage, le désavantage, etc. Donc c'est très curieux ce que devient l'hédonisme. C'est-à-dire que l'hédonisme serait, il y aurait quelque chose à penser par rapport à la société moderne, hein, son lien, le lien entre hédonisme et algorithme. Vous voyez, entre culte du plaisir et multiplication des algorithmes pour obtenir rapidement l'optimum. Ce qu'on appelle le quantified self. Vous voyez, l'idée que vous avez un moi que vous calculez, vous paramétrez toutes les données de votre vie pour savoir ce qui va vous conduire à la plus grande stabilité, au plus grand plaisir. Ben, tout le quantified self dépend exactement, voyez, de l'hédonisme. Vous voyez, le lien entre culte du plaisir et culte du calcul. Vous voyez, on voit chez Épicure comment les deux vont s'imbriquer. Et ça, c'est la force d'Épicure de nous avoir conduits jusque-là, d'avoir eu la cohérence, voyez, de nous emporter jusqu'à ce renversement. Nous attendions de l'hédonisme peut-être une grande jubilation, vivre comme un volcan, comme dit Michel Onfray, mais vous retrouveriez ça même dans les textes de Michel Onfray. Hein. Dans son manifeste hédoniste, vous voyez que le type, d'abord sur la photo de la couverture, il est habillé en, comme une sorte de soutane noire, vous voyez, c'est effrayant, quoi, il est tout en noir. Et puis, il explique, il dit que la vie n'est pas si heureuse que ça, que ce n'est pas bien de donner la vie, d'ailleurs que ça cause des troubles, etc. On retrouvera toutes ces structures-là. Et puis, du genre, il faut calculer. Et comme le calcul n'est pas le fait de l'intelligence, mais du cerveau, il faut passer par un dressage neuronal, dit-il. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le terme ultime de l'hédonisme de Michel Onfray, à cette époque-là, il a beaucoup changé, parce qu'il a dû se rendre compte qu'il était complètement con. C'était le dressage neuronal. Le dressage neuronal. Vous regardez dans le manifeste hédoniste. Voilà. Il faut dresser ses neurones à bien calculer pour parvenir à l'optimum du plaisir. Voilà. Eh bien, on arrive à ça. Voilà ce à quoi conduit l'hédonisme et quelles sont finalement, d'une certaine façon, les impasses. Alors, on va s'arrêter, sauf si Antoine, j'ai vu que vous leviez le doigt et... Oui, alors c'est la question, vous posez une question essentielle, c'est-à-dire est-ce que la pénitence, que ce soit celle du carême, mais quelle qu'elle soit, est à penser en termes de je me fais du mal ou j'entre dans des douleurs pour pouvoir parvenir à un plus grand bien. Cet aspect-là n'est pas à nier complètement, si vous voulez. Il y a des moments où il faut souffrir pour être beau. Voilà, vous voulez faire de la musique, vous devez travailler vos gammes, vous devez... Et donc, il y a un moment où on passe par un effort. Mais est-ce que ça n'est que cela qui est en vue? Parce que tout cela doit être fait dans une charité actuelle. Et c'est ça qui lui donne de la valeur. Donc, vous voyez, il n'y a pas l'idée « je souffre pour parvenir au paradis et plus je vais souffrir, plus j'aurai de plaisir ». Ce n'est pas automatique. Il faut déjà que je mène la vie du paradis, c'est-à-dire la vie de la charité, pour que cette souffrance ait un sens. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui a une valeur. D'ailleurs, on peut souffrir éternellement, de manière insensée, c'est ça ce que nous rappelle l'enfer. L'enfer est vraiment le meilleur remède contre l'idée d'une pénitence conçue comme dolorisme et plus j'ai de douleur, plus j'aurai de plaisir après. Ce n'est pas possible parce que là, vous avez une douleur qui est absolument vaine et inutile. Vous voyez? Et c'est très important de penser cela. Ce qui donne à la souffrance, même sa valeur salvifique, etc., c'est qu'elle est portée par la charité ou qu'elle est portée par le Christ. Mais ce n'est pas la souffrance en elle-même qui deviendrait un bien. Et qui deviendrait même le moyen du bien. C'est à partir du moment où elle est ressaisie comme souffrance d'amour ou comme souffrance d'enfantement, hein, les douleurs de l'enfantement. Donc dans cette générosité-là. Or, cette générosité-là, c'est déjà la charité et c'est déjà le ciel. Vous voyez ? Donc je ne cherche pas à souffrir pour entrer dans le ciel, c'est parce que je suis déjà dans la vie du ciel, mais ici-bas douloureuse, que je pourrais entrer dans la vie du ciel joyeuse. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le penser. Oui.
C'est de là que tu découles le pardon. En fait. Ça nous fait sortir de la douleur pour atteindre Dieu. Parce que par le pardon,
on relance le dynamisme de la vie. Et de... Oui, vous avez raison. Il y a dans le refus du pardon, parfois, quelque chose qui est très ambigu. Vous voyez, on parle du plaisir et de la souffrance, mais quelque chose où on a plaisir à rester dans son remords, vous voyez, aussi. Parce que ce remords-là fait que d'une certaine façon, on trouve une forme de repos paradoxal, vous voyez, plutôt que d'être relancé dans la poursuite du bien. Et le pardon vient libérer cela et vient dire, voilà, il ne suffit pas de souffrir, il ne suffit pas, tu dois rentrer à nouveau dans la dynamique du bien et de l'avenir. Et d'une fécondité, alors, c'est ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas s'auto-flageller en permanence.